Un incendie cet après-midi à Nouméa, deux docks de Biscochoc à Ducos ont été totalement détruits. La vente d'alcool interdite dès demain jusqu'à dimanche sur tout le territoire. Un arrêté du Haut-Commissariat à l'approche de la fête de la musique. Une vaste opération de saisie de drogue dans le Pacifique. Près de 500 kilos de cocaïne interceptée, 67 kilos sur le territoire. Le budget de la province sud revu à la hausse. Les recettes de la collectivité augmentent de 3,154 milliards. Au chapitre économique, l'ISEE a dévoilé ses derniers chiffres concernant l'emploi salarié. Tous les secteurs sont touchés. En cause, les émeutes de l'an dernier. Et puis le sport avec la New Caledonia Groupama Race. S'ils étaient 23 au départ, seulement deux bateaux ont passé la ligne d'arrivée. Le Néo-Zélandais V5, le Calédonien Guilty, Speed Marine et Puro. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans InfoSoir pour tout savoir de l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique. Et à la une de l'actualité ce soir, deux docks de Biscochoc à Ducos d'une surface de 3000 m² ont été totalement détruits par les flammes. L'un des docks abritait encore du matériel qui n'avait pas été évacué pour des raisons de sécurité. Il s'agit des mêmes locaux qui avaient déjà brûlé lors des émeutes de l'an dernier. Une trentaine de pompiers est arrivée sur le site aux alentours de 15h30, quelques minutes après le départ de l'incendie. Les pompiers ont confiné les habitants du quartier pour éviter qu'ils ne soient incommodés par les fumées. Ce matin, des vols auraient été commis sur le site de Biscochoc. D'après les premières informations, il s'agirait d'un incendie volontaire. Un homme serait recherché. La vente d'alcool interdite sur l'ensemble du territoire cette fin de semaine. Le Haut-Commissariat a pris un arrêté indiquant que compte tenu du contexte politique actuel, des troubles à l'ordre public des dernières semaines ainsi qu'à l'approche de la fête de la musique qui sera célébrée dans de nombreuses communes ce samedi, la vente d'alcool sera interdite à partir de demain et jusqu'à dimanche inclus. La vente d'alcool pour une consommation immédiate au sein des bars, restaurants et boîtes de nuit est quant à elle autorisée. La douane a communiqué sur une saisie de 500 kilos de cocaïne dans la région. Une opération conjointe des douanes françaises, australiennes, américaines et néo-zélandaises. Les douaniers de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie ont saisi 209 kilos de cette drogue entre mars et mai. Jean-François Baudin.
La poudre était conditionnée dans des conteneurs transportant notamment des panneaux d'isolation à destination de l'Australie. Il s'agit de la technique dite du rip-off. Elle consiste à utiliser des conteneurs destinés au transport de marchandises légales pour y cacher de la drogue à divers endroits du conteneur après qu'il ait été dédouané au départ et dans le but de récupérer les stupéfiants avant les contrôles à l'arrivée. Une technique que les douaniers connaissent bien. Leur travail d'analyse des flux et de ciblage ont permis d'intercepter la drogue entre la Calédonie, la Polynésie et Melbourne. C'est l'aboutissement d'un long travail de coopération entre les services du Pacifique selon la directrice régionale des douanes par intérim, Marie Moles Delgado.
142 kilos qui ont été découverts en Polynésie, 67 kilos qui ont été découverts en Nouvelle-Calédonie et 285 kilos qui ont été découverts dans trois saisies distinctes à l'arrivée à Melbourne. L'ensemble des contrôles ont lieu dans ce qu'on appelle le transbordement, c'est-à-dire que ce sont des conteneurs qui ne sont pas destinés à la Nouvelle-Calédonie, donc l'idée c'est de rassurer aussi, mais bien destinés à l'Australie qui est plutôt le marché de consommation finale de cette coquille. C'est une très belle opération, on est très contents de la coopération avec les autres services douaniers. Et puis c'était une première en fait, puisque c'est la première opération régionale de cette envergure entre les différentes douanes, les différents partenaires de la zone. Donc on est très satisfaits et c'est le point d'aboutissement aussi d'une stratégie en matière de coopération qu'on mène depuis plusieurs années maintenant. Et là on voit les résultats de ces années d'investissement.
Cette opération a également bénéficié du soutien de la direction territoriale de la police nationale et notamment de la police judiciaire, mais aussi du service de police scientifique.
Notez à présent ce rendez-vous d'antenne qui fera office de premier bilan pour le général Mathéos. Il sera demain midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Il est commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie depuis juillet 2022 et il va prochainement quitter ses fonctions. Il sera interrogé sur son action et sur les temps forts de ce séjour qui a bien sûr été marqué par les violences insurrectionnelles de mai 2024. Le général Mathéos, invité de Transparence, est à suivre demain à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée.
RRB 17h50.
L'actualité institutionnelle, les élus de la province sud sont réunis en séance publique. Ils étaient réunis ce matin après avoir adopté adopté le compte administratif 2024, les élus ont examiné la décision modificative numéro 2 du budget de la collectivité, Jean-François.
Un budget revu à la hausse. Les recettes de la province sud augmentent en effet de 3,15 milliards, soit une hausse de 6%, qui est due aux ajustements des dotations de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi à la participation de l'État dans le cadre des appels à projets pour la reconstruction et des dotations spécifiques pour certains investissements. Ce budget supplémentaire met l'accent sur l'investissement avec 78% de l'enveloppe consacrée au soutien de l'économie par la commande publique, plus d'1 milliard sur le réseau OPT et 600 millions pour l'habitat social. Écoutez Sonia Baquès, la présidente de l'Assemblée de la province sud.
Ces efforts dans les dépenses pérennes, il est indispensable. Alors il faut avoir du courage pour le faire parce qu'évidemment, il faut toucher un peu partout et contrairement à ce qui a été dit par l'opposition, tous les secteurs sont touchés. Et on essaye au contraire de préserver, c'est ce qui baisse le moins, les secteurs de l'enseignement, du social, de la santé, qui finalement sont les coupes les moins importantes de notre budget. Mais on fait le choix, de manière systématique, de mettre de l'argent dans la relance économique. On a remis 2,4 milliards dans l'investissement sur ce budget, parce que c'est évidemment l'investissement qui continue de faire travailler et les entreprises et les salariés. Dans cet hémicycle, on n'est pas dans un débat indépendantiste, non indépendantiste, on est dans un débat droite-gauche. On a des gens qui considèrent qu'ils font continuer à donner du poisson aux gens, et nous qui considérons qu'il faut qu'on leur apprenne à pêcher. C'est une vision complètement différente et c'est une vision idéologique différente avec des votes qui sont différents et c'est tout à fait normal. Et
pour Sonia Baquès, il existe un risque pour la province sud de ne pas toucher la deuxième part du prêt de l'État, ce qui représente être une baisse de recettes de l'ordre de 3,8 milliards. Une incertitude qui contraint l'exécutif à la prudence. Le groupe Calédonie Ensemble regrette les coupes budgétaires dans le domaine des aides sociales et a donc voté contre cette décision modificative numéro 2. Le groupe FLNKS Sud et l'Éveil Océanien se sont abstenus. Cette DM2 a donc été adoptée. L'autre texte à l'ordre du jour concerne une réforme sur les règles d'inscription dans les écoles de la province sud. La délibération a également été adoptée. Calédonie Ensemble et le groupe FLNKS et l'Éveil Océanien se sont abstenus. On retrouve Sonia Baquès.
On a une vraie difficulté sur les inscriptions scolaires. On a voulu formaliser et mettre un peu de discipline dans les inscriptions parce qu'en fait, on a malheureusement une période d'inscription ouverte et en fait, on a aujourd'hui près de 50% des demandes qui arrivent hors de cette période, ce qui fait que c'est très compliqué pour constituer une carte scolaire. On a voulu, nous, et on tient à maintenir un effectif inférieur à 25 élèves par classe, pour pouvoir maintenir cette qualité d'enseignement, il faut qu'on ait les idées claires sur la manière dont nos classes sont organisées. Et le fait qu'on ait la moitié des demandes qui arrivent hors délai, ça désorganise complètement la carte scolaire calédonienne. Donc il faut remettre un peu de discipline. On aura une date limite pour s'inscrire. On a aussi des parents, malheureusement, qui des fois font une double démarche, inscription dans le public, inscription dans le privé, et puis qui oublient de signaler que finalement ils sont inscrits dans le privé. Et nous, la démarche continue, on continue à leur demander des documents, ils répondent pas. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre de la discipline, un peu d'ordre dans ces inscriptions scolaires pour maintenir la qualité de l'enseignement.
Les élus ont également adopté le nouveau nom de plusieurs collèges lors de cette séance. Le collège de Magenta devient ainsi le collège Jean Lec. Quant au collège Porte de Fer, il porte désormais le nom de François Olivaux.
Et notez que demain matin, dès 9h, ce sera au tour des élus de la province nord d'être réunis. 41 points à l'ordre du jour. Il s'agira pour l'essentiel d'approuver les comptes administratifs de 2024, le budget supplémentaire de 2025, mais aussi de valider de nombreuses subventions. Christian Théin dément toute responsabilité dans les violences insurrectionnelles de mai 2024. Le leader de la CCAT s'exprimait pour la première fois depuis sa remise en liberté après un an de détention provisoire. Et il tente de s'exonérer de tout, Elisabeth Noir.
Une conférence de presse organisée cette nuit pour nous à Montpellier dans le cabinet de l'un de ses avocats, maître Florian Médicot, et en présence d'un autre de ses défenseurs, maître François Roux. Des avocats qui, comme de juste, clament l'innocence de leur client et qui lui ont conseillé de ne reconnaître aucune responsabilité dans les faits qui lui sont reprochés. On rappelle que Christian Théin est toujours poursuivi dans le cadre de l'enquête sur les violences insurrectionnelles de mai 2024 et qu'il est toujours mis en examen pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs. Il est aussi placé sous statut de témoin assisté pour complicité de tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique et pour provocation directe au groupement armé suivi des faits. Mais le leader de la CCAT dément toute implication dans les émeutes. Il rappelle qu'il a toujours contesté l'ensemble des charges qui lui sont reprochées et il réaffirme qu'il a toujours eu une démarche pacifique Quand on l'interroge sur les conséquences des violences insurrectionnelles, il déclare même que c'est un beau gâchis et il dit être terriblement triste pour son pays en affirmant qu'il était comme tout le monde déconcerté quand il s'est réveillé avec l'insurrection dans les quartiers de Nouméa. Il n'a jamais été question de sacrifier des vies, assure encore Christian Théin, qui met en cause les charges des forces de l'ordre contre les jeunes.
Le leader de la CCAT qui a été nommé président du FLNKS pendant sa détention, il a aussi été interrogé sur son éventuelle participation aux discussions sur l'avenir institutionnel début juillet à l'Élysée.
Et il indique alors qu'une convention du FLNKS est prévue le 28 juin pour décider dans quel cadre les discussions doivent se poursuivre. Si je suis là, tant mieux, dit-il, mais il ajoute que jamais il ne s'est considéré être irremplaçable. Christian Théin qui se permet même de déclarer qu'il faudra qu'on trouve les voies pour sortir par le haut, parce que, dit-il, on ne peut pas répéter tous les 30 ans la même chose. Et il se dit désireux avec le gouvernement français de se projeter et de fixer une voie vers la pleine souveraineté. Il se pose aussi en donneur de leçons en mettant en cause l'entêtement de certains membres du gouvernement à amener ce dossier dans le mur. Et il ajoute que la parole que la France donne a de la valeur, mais qu'il a l'impression que ces derniers temps, on a galvaudé la parole de la France. Reste à savoir si ces arguments convaincront la justice quand il comparaîtra pour les faits pour lesquels il est poursuivi.
L'UNI, de son côté, a sa propre interprétation des propos d'Emmanuel Macron. Dans un long communiqué, la délégation composée de Jean-Pierre Djaoué, Adolphe Digoué et Victor Tutugoro réaffirme ses engagements en faveur d'une souveraineté partagée. Elle déclare que c'est aussi la position du président de la République, Elisabeth.
On peut penser que l'UNI prend ses désirs pour des réalités, puisque sa délégation, aux discussions sur l'avenir institutionnel, affirme que le président de la République et le ministre des Outre-mer ont confirmé le mardi 10 juin que les plus hautes autorités de l'État portent le projet d'une souveraineté partagée avec la France et qu'il s'agit bien du projet nouveau que le président Emmanuel Macron a annoncé lors du 6e sommet Pacifique France qui s'est tenu à Nice. C'est allé un peu vite en besogne puisque l'on se souvient que lors de ce sommet, le président de la République a confirmé l'organisation d'une réunion à Paris dans les prochaines semaines pour pouvoir rassembler toutes les parties prenantes et réussir un projet nouveau pour la Nouvelle-Calédonie. Mais Emmanuel Macron n'a pas précisé la nature de ce projet, ce qui alimente toutes les interprétations. L'UNI a la sienne, elle estime que le projet de souveraineté avec la France proposé début mai par Manuel Valls engage la parole de l'État vis-à-vis des délégations calédoniennes. L'UNI ajoute que ce projet est salutaire et qu'il a reçu l'assentiment de 4 délégations sur les 6 qui étaient présentes autour de la table. Jean-Pierre Djaoué, Adolphe Digoué et Victor Tutugoro saluent en conséquence la méthode et le format de discussion et ils considèrent que l'enjeu de la prochaine séquence de négociations à Paris sera de déterminer ensemble les modalités, la durée et les engagements de la Nouvelle-Calédonie et de la France en vue de ce projet de souveraineté. À défaut de consensus politique, l'UNI annonce qu'elle plaidera pour la tenue dans les meilleurs délais d'une consultation portant sur le projet de souveraineté avec la France. Fin de citation. Il faudra donc attendre la réunion autour du président de la République début juillet à Paris pour clarifier la situation et rétablir la réalité des intentions de l'État.
Et notez que nous parlerons de l'avenir institutionnel demain en compagnie de Gilles Brial, qui sera notre invité du matin à 7h30. Il est membre de la délégation loyaliste. Il sera interrogé sur les projets mis sur la table des discussions sur l'avenir. On entend beaucoup de choses sur les... et les Calédoniens ont peut-être un peu de peine à s'y retrouver. Nous demanderons à Gilles Brial quelle est, selon lui, la réalité du projet de souveraineté avec la France de Manuel Valls et du projet de fédéralisme proposé par les loyalistes et le Rassemblement. Une interview à suivre demain à partir de 7h30 sur Radio Rythme Bleu. 17h58, on marque une première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire, mais aussi dans la région.
Chers amis golfeurs, la dernière qualification pour la finale de la Somme Bay World Cup Nouvelle-Calédonie se tiendra au golf de la Wengi ce samedi 21 juin en formule Stableford. Alors ne manquez pas cette dernière opportunité et inscrivez-vous par mail à golf.wengi@lagoon.nc.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite du journal, Léo Fichou.
La Nouvelle-Zélande a suspendu l'aide au développement qu'elle accorde aux îles Cook en réponse aux relations que celles-ci entretiennent avec la Chine, sans consultation bien évidemment préalable avec Wellington. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
La Nouvelle-Zélande avait exprimé ses inquiétudes en février lorsque le premier ministre des îles Cook, Mark Brown, s'était rendu à Pékin où il avait signé un partenariat stratégique global avec la Chine accord qui portait notamment sur la coopération économique, infrastructurelle et maritime, de même que sur l'exploitation des ressources minérales des fonds marins de l'archipel polynésien, lequel jouit d'un statut de libre association avec Wellington. Dans un communiqué, un porte-parole du ministre kiwi des Affaires étrangères, Winston Peters, a déclaré que l'enveloppe d'aide au développement des îles Cook, laquelle s'élève à une somme équivalente à 1 milliard 200 millions de nos francs pour l'exercice en cours, sera suspendue, tout comme le seront les suivantes, tant que le gouvernement des îles Cook n'aura pas pris des mesures concrètes pour rétablir la relation et la confiance. Le même porte-parole a indiqué qu'un courrier en ce sens a été adressé à Mark Brown début juin. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Le chef du gouvernement néo-zélandais Chris Luxon est en Chine pour encore 2 jours. Il doit notamment y rencontrer le président Xi Jinping et le premier ministre Li Qiang. L'actualité économique, encore un indicateur qui confirme les difficultés générées par les violentes émeutes de l'an dernier. Au deuxième semestre 2024, l'emploi salarié a été très fortement chuté, note Lisée Jean-François Baudin.
Oui, les troisième et quatrième trimestres ont été catastrophiques pour l'emploi salarié. Les chiffres de Lisée confirment que 11 000 emplois ont disparu dans le privé en 2024 et qu'avec 55 600 salariés à l'heure actuelle, le niveau d'emploi retrouve son niveau de 2007. Tous les secteurs sont touchés, industrie, services, commerce en premier lieu. Pour le BTP et l'agriculture, le recul de l'emploi avait commencé bien avant la crise de 2024. Lisée relève que cette chute de l'emploi salarié aurait pu être encore plus grave, mais qu'elle a été en partie freinée par les mesures de chômage partiel qui ont respectivement bénéficié à 12 000 personnes en septembre et 6 950 en décembre, que les employeurs ont pu garder en emploi malgré une activité réduite. Le secteur public, lui, a perdu 1 700 emplois, essentiellement des contractuels. Un mot du secteur de la santé qui a perdu en 2024 560 salariés, mais ce sont là les pertes qui proviennent des difficultés à pourvoir les postes, alors que les offres d'emploi, elles, restent nombreuses.
Et ce midi, dans les jeudis de l'économie, nous nous sommes intéressés au secteur de la plaisance et du nautisme, un secteur où l'activité aussi est en recul, Jean-François.
Les gestionnaires de ports sont aux premières loges pour mesurer ce recul. C'est le cas de la Sodemo, qui gère entre autres les marinas de la Moselle, de Port Brunet, de Boulari ou encore de Port Wenghi. Sébastien Fellman est le directeur de la Sodemo.
On n'a plus de liste d'attente relativement confortable et profonde. Les gens aujourd'hui, ce n'est plus une priorité. Malgré tout, on a la chance, je pense, en Nouvelle-Calédonie, que le bateau fait encore partie de la parade du Calédonien. Et aujourd'hui, autant peut-être, il y a encore un an, le bateau servait beaucoup aux loisirs. Maintenant, on voit très bien que les gens, même avec des bateaux dits de loisirs, sortent pour aller pêcher. Pour pallier à ce manque de pouvoir d'achat, ils vont plus pêcher. On ressent forcément ce recul-là, même dans nos ports qu'on gère, et principalement, alors sur ceux de Nouméa sont encore préservés. Mais après, Port Boulari, c'est très, très, très compliqué à Port Boulari.
Il faut ajouter à cela la réduction du pouvoir d'achat qui pousse de nombreux propriétaires de bateaux à différer des travaux d'entretien et qui consomment moins dans les magasins d'équipement ou d'accastillage. L'autre difficulté qui ralentit l'activité du nautisme, c'est l'absence de bateaux étrangers depuis mai 2024, a expliqué Christophe Besson, le directeur de Marine Corail.
Les bateaux étrangers, bateaux de transit, ne viennent plus du tout en fait. Avant, il y avait des rallyes qui étaient mis en place tous les ans, c'était des gros rallyes. C'était vraiment des dizaines et dizaines de bateaux à fort pouvoir d'achat qui dépensaient beaucoup sur le territoire. Ceux-là, suite aux émeutes, ils se sont déroutés, ils sont arrêtés, ils sont partis à Fidji, Vanuatu, et il y a beaucoup de mal à les faire revenir.
Oui.
En plus, on a perdu récemment la vente hors taxe. Avant, un bateau étranger était éligible à une vente hors taxe au même titre que des pêcheurs professionnels ou toutes les industries minières. Et ça, on a eu confirmation encore il n'y a pas très longtemps que ce système-là n'existe plus. Et c'était très attractif pour les touristes parce que, comme un Calédonien, quand on va en Australie, on fait des gros achats, on a une détaxe, en Europe c'est pareil. Et ici en Calédonie, on est un des rares territoires dans le bassin pacifique à ne plus avoir ce système-là. Et c'est un gros frein à l'achat. Avant, des bateaux et des refits, rester longtemps à l'aire de carénage de Nouville, changer des groupes électrogènes, des dessalinisateurs. Et maintenant qu'on leur dit, non, vous devez payer à TGC, alors, c'est très frustrant pour eux et ils ne le font pas.
Présent également le vice-président du CNC, Frédéric Mignard, qui note aussi un ralentissement dans la fréquentation des activités de voile et de pêche. Une émission à retrouver en intégralité sur notre site internet.
RRB 18h04.
Des hôtels de la province sud décorés. Aujourd'hui, la collectivité compétente pour le classement Atout France des établissements hôteliers a remis leur panonceau à 5 hôtels affichant 3 ou 4 étoiles. Atout France et l'Agence de développement touristique de la France. Son classement est reconnu internationalement. De nouveaux critères ont été adoptés l'année dernière pour répondre aux enseignes, aux exigences de la clientèle. La province a mis en place un accompagnement, des formations pour près de 150 personnes travaillant pour ces établissements qui ont permis à 5 d'entre eux d'obtenir leur certification. Le dispositif a été piloté par Dominique Lepoule, chargé de structuration de l'offre touristique à la province sud.
C'est vraiment valoriser nos établissements, la montée en qualité de nos établissements et puis une reconnaissance de notre destination touristique. Alors l'accompagnement, il se fait donc par notre service. Et puis on va aussi aider l'établissement avec des formations qui sont gratuites et qui sont obligatoires dans les critères de classement. Les formations, c'est sur les éco-gestes, ça c'est obligatoire pour tous les salariés de l'établissement, et puis une formation sur l'accueil des clientèles en situation de handicap. Et puis ensuite, il y a des critères qui sont différents, que vous vous positionnez en 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles ou 5 étoiles. Donc plus vous montez en gamme, forcément plus le confort est exigeant.
Les 5 hôtels décorés ce soir ont donc dû revoir leur qualité d'accueil, de confort et de service adapté avant qu'un évaluateur métropolitain passe anonymement une nuit au sein de leur établissement et valide leur étoile. Parmi eux, l'hôtel Beau Rivage, situé à Nouméa. Lancelot Payotin en est le directeur général.
Ça représente en fait l'aboutissement d'un accompagnement déjà par la province sud et des équipes et surtout du travail en interne. Nous étions initialement 2 étoiles il y a quelques années et là on a voulu se challenger, se mettre également au niveau du standard français, Atout France, hein, qui n'est pas un standard calédonien, c'est un standard métropolitain, puis donc se mettre un petit peu en compétition. Ça nous a permis de relever le niveau déjà de prestation de notre établissement, de voir qu'on avait aussi parfois des très bons points, d'autres qu'il fallait améliorer. Aujourd'hui, on est pleinement dans un 3 étoiles plus, on est plutôt content.
Les 4 autres hôtels décorés ce soir sont le Lagon, le Hilton, le Riveland et le Ramada. Leur classement est effectif pour 5 ans. Classement Atout France est une démarche volontaire. Les hôtels intéressés doivent donc s'inscrire directement sur le site de la province sud pour entamer la démarche. Promouvoir le savoir-faire calédonien auprès des Japonais, c'est l'objectif d'une visite d'une semaine qui s'achève aujourd'hui. 3 importateurs venus du Japon ont rencontré des producteurs locaux dans l'espoir de créer des échanges commerciaux. Le reportage de Léana Colombo.
Une visite tournée essentiellement vers le miel et sa production. Plume, Bourail, Ouégua ou encore La Foix, les importateurs étrangers ont visité de nombreux domaines apicoles durant cette semaine écoulée pour peut-être repartir et commercialiser du miel calédonien. Il s'agissait de leur premier séjour sur le territoire, des moments pleins de découvertes pour Iki Inui.
J'ai rencontré des belles personnes, j'ai vu que le pays était très chaleureux. Je pense que les Japonais peuvent vraiment aimer ce pays et ça s'est vraiment très bien passé.
Les Japonais n'ont pas la culture de consommer le miel. Je pense que mon but, c'est de leur expliquer, leur montrer comment consomment les Calédoniens. S'ils arrivent à leur expliquer ça, je pense qu'il y a un bon potentiel au Japon.
Cette initiative trouve son origine au salon Foodex Tokyo 2025. Taishi Stani Furukawa a participé à cet événement majeur en Asie en mars dernier. Lors de cette manifestation, un contrat d'exportation pour du miel calédonien et du sirop de vanille a été acté avec un distributeur japonais. C'est ainsi que l'idée d'inviter d'autres importateurs a germé dans sa tête.
Ils ont été convaincus avec ce que je leur ai raconté quand j'étais au Japon pendant le salon de Foodex. Mais je voulais qu'ils sentent vraiment la vraie chose de tout ce que j'ai raconté. Donc ils sont venus en Calédonie, ils ont vu tout ça, ils ont été convaincus, même beaucoup plus que tout ce que je leur avais dit. Ça va être très intéressant dans le futur. Ils vont pouvoir communiquer plus en direct aux Japonais. Les Japonais ne connaissent pas les produits calédoniens. Il n'y a rien de calédonien au Japon à part le nickel. Il y a les crevettes, mais j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Ils ne savent pas que ces crevettes sont de Nouvelle-Calédonie. Maintenant, avec tout ça, ils vont repartir au Japon. Ils vont essayer de créer des contenus pour que ça devienne plus connu au Japon.
Cette visite ne se limitait pas à la découverte du miel calédonien, mais aussi aux autres produits tels que les fruits ou encore l'alcool.
18h passées de 9 minutes, seconde pause dans ce journal, on parlera sport juste après.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
RRB. Nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal et l'actualité sportive, Léo Fichou.
Oui, on va parler de la New Caledonia Groupama Race. L'équipage Guilty, Speed Marine et Puro est le premier bateau calédonien à avoir franchi la ligne d'arrivée de cette course. Ce matin, à 10h35, le Sydney 38 a rallié Port Brunelé après 4 jours et 35 minutes de navigation. Une performance qui lui permet de battre le record de sa catégorie avec 10 minutes d'avance sur l'ancien chrono détenu par Pulpito. Une victoire rendue possible grâce à une stratégie audacieuse, comme l'explique Alexandre Ruiz, skipper du voilier.
On est là aujourd'hui à cette heure-ci, c'est que ça s'est plutôt bien passé. En la voile, on essaye toujours de prendre le chemin le plus court, mais là, comme on s'est dédié la première nuit, on était sur la vitesse, on dit non, ça sert à rien d'aller vite, on va essayer d'aller juste. Et c'est vrai que cette nuit, on s'est dit on va essayer d'aller juste, même si on allonge la route, on va aller chercher le vent. Allonger la route en avançant, ça va plus vite que rester sur place. Donc on a fait, c'est pas grave, on va allonger les milles, mais au moins on va avancer, quoi. En passant, on me dit qu'on a battu le record, donc carrément, ça y est, moi, mon but de cette course, il est fait. J'étais parti pour le record, je voulais tomber les 4 jours, ça s'est pas fait, mais il y avait l'autre corps derrière, donc voilà, ça c'est carrément, c'est la cerise sur le gâteau, ça c'est clair.
Une performance d'autant plus remarquable que cette édition a été marquée par de nombreux rebondissements. Pour Tugdual Piriou, directeur du CNC, c'est une expérience différente cette année en tant qu'organisateur.
C'est la première fois que je l'avais vu de l'intérieur. D'habitude, je suis sur un bateau. Bah, j'avoue que c'est encore plus long et encore plus stressant. Je vois par exemple BCI Brer Fox qui était aussi très bien, qui a eu ses voiles déchirées alors qu'il était deuxième. Énormément de rebondissements. BNC qui a fait une course magnifique. Ça doit être tellement dur pour eux actuellement. Après, tout n'est pas fini non plus à cette heure-ci, mais ça doit être dur. Il faut des nerfs en acier pour continuer à lutter alors qu'après tant de batailles, ils sont englués. C'est très stressant à suivre de l'intérieur. Tant que tout le monde, tous les petits poussins ne sont pas rentrés à la base, je reste comme toute l'équipe CNC sur le qui-vive. Nous, il y a aussi le côté sécurité qui est notre priorité. Donc tant que le dernier bateau n'est pas là, on est sur le pont et on est prêt à tout.
Et la course est loin d'être terminée pour les autres participants. Plusieurs équipages sont toujours englués dans la pétole. Pulpito, MLS FCD, Roamans et BNC Mainet sont bloqués dans le lagon. De son côté, Jungens Gan Sainte-Marie a abandonné et est rentré en moteur au port. En marge de cette New Caledonia Groupama Race et en attendant du coup que les bateaux arrivent, de nombreuses activités sont proposées, notamment autour du village. Cet après-midi, l'activité qui a attiré beaucoup de monde, c'est l'initiation pêche. Et parmi les participants, il y avait Adrien. Il a suivi attentivement les conseils de son coach du jour, Rémi.
J'aime beaucoup la pêche, mon père un peu moins. Et du coup, j'avais envie de venir pêcher. Je me suis dit c'est une bonne occasion vu que j'y ai pas souvent. Et il était d'accord, il m'a emmené. Et là, il est parti avec ma sœur.
Et t'as un bon coach aujourd'hui ?
Ouais, il est super.
Alors coach, comment ça se passe ?
Mais écoute, ça va, il se débrouille très bien. Et ça fait presque une demi-heure qu'il est en autonomie, qu'il pêche tout seul. Bon, on a eu un petit accrochage là qu'on a réussi à régler. Mais sinon, ça va, il se débrouille très très bien. Donc, voilà, on dirait presque un pêcheur qui a fait ça depuis longtemps.
Donc là, quel conseil on peut donner quand on commence ?
Bon, ben déjà la sécurité, voilà, un périmètre de sécurité, pour ne pas se précipiter et puis prendre son temps. On n'est pas pressé, il n'y a pas le fait. Allez, à toi de jouer. Fais attention, la canne est légèrement plus longue. Hein.
Ouais.
Super lancé, super lancé. Et souviens-toi, va plus doucement, il faut vraiment que ton leurre zigzague. Tu vas un peu trop vite, fais des petits coups de sillon. Donc là, voilà, vous voyez, c'est bien, parfait. Tu vois les zigzags ? Voilà, c'est comme ça. Bon, ben je te laisse gérer, toi, t'es autonome. Fais juste attention au matériel.
Je suis obligé de te poser la question, ça mord ou pas ?
Pour l'instant, on n'a pas eu. Moi, j'ai pas eu. Mais là-bas, là, il y a quelqu'un qui a eu un poisson, mais ça a cassé la ligne.
Et d'autres activités permanentes sont également proposées, un jeu de piste numérique, la découverte des nœuds marins ou encore un alphabet marin et le code Morse.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, notre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. On démarre avec notre question du jour. Des événements comme la Groupama Race sont-ils, selon vous, de nature à donner une image plus attractive de la Nouvelle-Calédonie ? Si vous pensez que oui, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 31-46. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. de la natation pour terminer. Et si Maxime Grousset réalisait le carton plein au championnat de France de natation en grand bassin? Le Calédonien est engagé depuis le début de la semaine. Il a déjà remporté le 50 et le 100 mètres nage libre, mais aussi le 50 mètres papillon. Maxime Grousset va donc tenter cette nuit de s'imposer sur le 100 mètres papillon. Il est aligné dès 19h sur les séries aux côtés d'un autre Calédonien, Ethan Duménil. La finale est prévue dans la nuit à 3h. Après le sport sur Radio Rythme Bleu, vous en avez l'habitude, on fait le point sur la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la suite du journal avec vous, pardon, excusez-moi Léo.
On va passer à la météo. Après le sport, on fait la météo.
Mais oui, c'est moi qui ai envoyé.
C'est à vous Nicolas du coup.
Alors cette nuit, sur l'ouest, des éclaircies seront possibles avec quelques gouttes sur le nord-ouest. Sur les autres régions, les nuages domineront et des averses circuleront. Elles seront plus nombreuses et parfois modérées le long de la côte est. Sur la grande terre, le vent de secteur nord-est moulira entre 5 et 10 nœuds. Sur l'ouest, il deviendra même variable faible avec encore parfois 15 nœuds dans certaines vallées. Sur les loyaux l'île des Pins, il sera encore voisin de 15 nœuds. Les températures de la nuit resteront plus douces qu'à l'accoutumée, allant de 19 à 22 degrés, voire 17 à 18 degrés. Ce sera sur l'ouest. Demain matin, peu de place pour le soleil dans un ciel très nuageux. Sur l'ouest et le sud des loyautés, le temps sec prédominera. Ailleurs, des averses séculeront, localement plus marquées sur le sud-est et l'île des Pins. Sur le nord, le vent de secteur sud-est s'établira progressivement autour de 5 nœuds. Sur le sud, il sera variable faible aux loyautés sur l'île des Pins. Il restera plus fort de nord à nord-est entre 10 et 15 nœuds.
Merci.